Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre chaîne de podcast Une alchimie de l'éveil. Je suis Kragir et aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième épisode de cette masterclass podcast series destinée au stress. Et qui dit stress, dit épuisement. Et qui dit épuisement, dit risque de burn-out. Voici un copain que je connais bien, bien en long, en large et en travers pour l'avoir moi-même affronté en 2009. Aujourd'hui, il va être question de le comprendre, de l'anticiper et surtout de l'éviter. Dans ce voyage, découvrons les méandres et surtout les indicateurs qui nous permettront de nous éloigner de cet ennemi. Eh oui, 13 février 2009, j'avais mené une carrière florissante. Tout allait bien, non pas bien, tout allait en apparence merveilleusement bien dans le meilleur des mondes. Je vivais ce que je croyais être une vie de rêve. Mais en réalité, je m'étais embourbé dans un enfer où petit à petit, affolant sans m'en apercevoir, ou plutôt sans vouloir m'en apercevoir, je me suicidais affolant. Et le 13 février 2009, j'ai fini sur un lit d'hôpital, dans l'incapacité totale de parler français. Je suis d'origine espagnole, je me rappelais à peine tout juste de ma langue, incapable de parler français. Et le plus déroutant de tout, c'est que j'étais absolument incapable de reconnaître la femme avec laquelle je partageais ma vie depuis des années. Et oui, un événement qui fut compliqué, douloureux, qui exigea beaucoup de ressources, mais un événement qui, en sortant de l'hôpital, personne ne sut identifier. Nous étions en 2009, et le burn-out n'était pas quelque chose de très connu. J'ai mis 6 mois à pouvoir mettre un nom précis sur ce qui venait de se passer. J'ai mis 6 mois à comprendre ce qui s'était passé dans mon corps, car les rapports médicaux disaient tout juste que j'avais eu un petit coup de fatigue, et qu'en me reposant quelques jours, tout reviendrait à la normale. Il m'a fallu 2 ans d'efforts et de difficultés, 2 ans de vulnérabilité, 2 ans à vivre amenuisé, déguisé en faisant semblant que tout allait bien, 2 ans pour me retrouver. Aujourd'hui, hélas, pas hélas, au contraire, aujourd'hui, heureusement, les choses ont changé. Dieu merci, ce n'est plus du tout le même environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de ça. Car depuis quelques années, depuis le début de la crise sanitaire, il y a une explosion des cas de burn-out et des problématiques liées au stress, à l'incertitude et au manque de sens. Et peut-être que c'est maintenant, plus que jamais, que le moment est venu de pouvoir faire la peau à cet ennemi qui nous lorgne, qui nous suit, qui nous poursuit, beaucoup d'entre nous, et que nous pouvons à tout moment déloger pour avoir une vie absolument extraordinaire, épanouissante, et ce ne sont pas des paroles en l'air. Le burn-out nous pointe du doigt beaucoup de zones qui méritent notre attention. Mais surtout, il nous montre du doigt tous ces programmes qui nous empêchent d'être et de vivre et de nous épanouir. Cet épisode, c'est pour leur faire la peau. Le moment est venu de réinventer notre humanité et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Chers amis, je suis Kragir et le but de cette chaîne est de diffuser au plus grand nombre et gratuitement des clés et des pépites pour la transformation et la croissance personnelle. Nous croyons qu'il est possible de construire un monde meilleur et pour cela, nous contribuons à éveiller la prise de conscience de l'immensité de notre potentiel, ceci en partageant des clés concrètes et applicables. Nous voulons apporter des contenus positifs, constructifs, pédagogiques, humains et responsables, servis avec pragmatisme et une approche pratique qui donne toute sa place au bon sens et à l'expérience vécue. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est de partager avec vous un comment pour vous permettre de faire et de passer à l'action concrète. Et pas juste de philosopher ou de nourrir le mental. Car comme je le disais tout à l'heure, le moment est venu de réinventer notre humanité, et ce n'est pas en restant dans le cadre que nous allons le faire. Cette chaîne de podcast fait partie d'un projet de plus grande ampleur allant au cœur de l'humain et de son potentiel. Il est appelé Conscious Media, le média pour une vie pro et perso en conscience. Découvrez ce dernier dans Conscious, K-O-N-X-U-S, tiré du 6 media.com et découvrez une ribambelle de podcasts, d'épisodes et de contenus médias gratuits pour faire le tour d'une vie pro et perso en conscience. Une vie plus consciente dans toutes les dimensions de notre vie. Et si vous avez envie d'interagir avec nous, de commenter ce que vous avez écouté, de compléter ce que vous avez écouté, d'apporter des critiques constructives ou ne serait-ce que tout simplement nous suggérer des thématiques pour de futurs épisodes, sachez que nous sommes tout ouïes, que vous pouvez nous écrire à hello@conscious-media.com. Nous répondons à tous nos emails. Parfois, il m'arrive d'avoir un petit peu de retard sur certains parce que je veux prendre le temps de bien y répondre. Mais nous répondons à tous nos messages car la conversation qui s'entend en vous, c'est celle qui donne toute sa richesse à cette chaîne. Et avant tout et surtout, rappelez-vous que cette chaîne est surtout la vôtre. Et maintenant, plongeons directement dans la thématique qui nous tient à cœur aujourd'hui. Nous avons entamé une nouvelle masterclass, podcast, série sur le stress cette fois-ci. Je ne sais même plus laquelle c'est, 6e, 7e masterclass, il y en a toute une série de séries dans cette chaîne de podcast sur des thématiques aussi diverses et variées que la méditation, que les énergies, que le chamanisme, que le cultiver le bonheur. Bref, envoyer en voilà, créer sa réalité. Il y a toute une série de masterclass, toutes et chacune d'entre elles, plusieurs heures de contenu que vous aurez du mal à trouver ailleurs sans avoir à débourser des quantités importantes. Nous voulons aujourd'hui divulguer au plus grand nombre des connaissances nécessaires pour vraiment passer des caps importants dans notre conscience et dans notre vie de tous les jours. Ceci en allant au cœur de l'humain et de notre potentiel. Et du coup, cette masterclass dédiée au stress a commencé avec l'épisode antérieur, le premier de la série, où nous avons découvert la physiologie du stress, le fonctionnement du cerveau, comment celui-ci a une programmation induite par le stress. Nous avons parlé aussi de stress et de sommeil, de déséquilibre nutritionnel et digestif, de stress et de sexualité, de stress et d'émotion. Nous avons aussi traité du décalage horaire du stress. Et nous avons proposé un exercice qui, d'après les neuroscientifiques, est l'exercice le plus efficace, le quick win le plus extraordinaire qui puisse être en quelques secondes, comment vous pouvez lutter contre le stress ici et maintenant. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant quand vous êtes dans des situations comme celles que nous avons traitées aujourd'hui, c'est-à-dire celle d'une fatigue chronique avancée et d'un stress chronique avancé. Mais quand même, dans les situations ponctuelles où il faut lutter contre le stress, cet exercice est d'une puissance dingue. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à découvrir l'épisode antérieur de cette série. Abonnez-vous à cette chaîne car il y aura encore 3 autres épisodes pour compléter cette série. Comme ça, vous ne raterez aucun de ces épisodes. Et surtout, si vous aimez ce que nous avons fait, mettez-nous un commentaire et des étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Car plus nous aurons d'étoiles et de commentaires positifs, plus les plateformes d'hébergement feront la promotion auprès de plus larges audiences et nous serons de plus en plus nombreux à se joindre à cette fête Alchimie de l'éveil. Et pour finir, les fêtes les meilleures sont toujours entre amis. N'hésitez pas à recommander ces épisodes autour de vous. Maintenant que vous savez ça, que nous avons posé le cadre sur cette masterclass podcast series, que se passe-t-il si l'on tire trop sur la corde? Et la question que l'on me pose le plus souvent, comment puis-je savoir que je m'approche du burn-out? Lors de l'épisode antérieur, nous avons appris que le cerveau s'est programmé grâce à Dame Nature pour pouvoir supporter ni plus ni moins que 5 influx de stress majeurs par jour. Ce qui, à travers la perspective de Dame Nature, c'est déjà énorme. Car à l'époque de l'homme de Néandertal, quand ce fameux cerveau reptilien a été programmé, Dame Nature nous a préparé à pouvoir faire face à de grosses frayeurs. un mammouth qui veut vous embrocher pour faire de vous son 4 heures. Ça, c'est un gros influx de stress. Et se dire que vous allez en avoir 5 dans une journée, il faut dire que dans le loto des hommes ou femmes de Néandertal qui n'ont pas de bol, il fallait vraiment être en pole position. Donc la nature a bien fait les choses. Sauf que les temps modernes ayant évolué, nous vivons aujourd'hui en moyenne, alors je souligne parce que la question de la moyenne est importante, en moyenne nous vivons avec 75 équivalents mammouths par jour. L'effet collatéral de ça est absolument désastreux pour notre corps. Beaucoup de personnes vivent ça tous les jours de la semaine et le week-end en plus. Ce qui nous amène à vivre et à subir un stress chronique. Un stress qui en permanence vient nous contaminer le corps, le cœur, l'esprit et l'énergie. Nous allons donc parler de ces états de fatigue chronique avancée. Et d'abord, quand on me pose la question de savoir si je m'approche du burn-out, nous allons traiter cette partie invisible de l'épuisement. La partie la plus pernicieuse, celle que vous ne pouvez pas voir, mais qui agit subrepticement à l'insu de votre plein gré. De quoi s'agit-il réellement ? Mais avant d'entamer, vous faire une parenthèse. Nous allons maintenant faire un voyage dans les méandres désagréables et obscurs de l'épuisement. Ça va être un épisode, du moins une bonne partie de l'épisode, qui sera pas forcément agréable à écouter, mais qui sera révélatrice de beaucoup de choses pour ceux d'entre vous qui en ont besoin. Ce n'est pas un message négatif pour vous tirer vers le bas et vous pointer du doigt en vous disant « Mauvais élève, tu vas te prendre le mur !» Loin de là, tout ce que vous allez écouter respecte la philosophie de cette chaîne et sera présenté de façon pragmatique, sans fioritures, sans déguisement, on va parler vrai, mais ce sera surtout présenté avec optimisme. Ce sera présenté avec un angle positive, car il faut avoir été dans ces méandres profonds pour savoir à quel point cet angle-là est essentiel, voire même salvateur. Quand vous êtes au fond d'une fatigue chronique, d'un stress chronique, vous n'avez besoin de rien ni de personne pour voir la vie en noir. Par conséquent, quiconque qui vient vous parler du problème dans lequel vous êtes, qui met encore des couches d'obscurité, est plus que malvenu. Aussi pragmatique et autant de raisons est-il ou est-elle, cette personne n'est pas bienvenue. Par contre, une personne qui nous parle vrai ne va faire que nous dire ce que nous savons déjà. Par contre, son message positif sera essentiel car plus nous sommes fatigués, plus nous avons de mal à trouver les ressources pour nous-mêmes pouvoir nous sortir du merdier, excusez-moi l'expression, dans lequel nous nous sommes fourrés. Du coup, nous allons faire une promenade que j'appelle « voir les oreilles du loup ». Cette promenade n'est pas agréable parce qu'elle parle vrai d'une situation qui est celle des personnes qui sont en stress chronique ou avancé, en fatigue chronique ou avancée. Ceci étant dit, j'aurai toujours cet angle parce que je vous donne maintenant la conclusion de cet épisode. De toutes ces expériences, ce qui vous attend, c'est une renaissance, tel un phénix. Le burn-out, ce qu'il fait, c'est pointer des doigts, des zones obscures, des déséquilibres, des problèmes que vous avez ignorés trop longtemps. Ceux-là, ils sont en train de vous exploser à la figure. Alors, vous n'êtes peut-être pas arrivé à la limite du burn-out. Espérons que vous n'en arriviez jamais. Mais dans le processus qui mène à cet événement regrettable, il y a toute une descente aux enfers faite de fatigue et de stress chronique. Si vous êtes quelque part dans cette descente-là, le moment est venu pour retrouver la lumière qui est en vous, car cette descente-là, ce qu'elle est en train de faire, c'est mettre en exergue, juste devant vos yeux, toutes vos zones d'ombre et de vulnérabilité dont vous n'avez plus besoin. Ainsi, ceci étant maintenant dit, fermons la parenthèse, car nous allons nous en sortir ensemble, par le haut, et redécouvrir qui nous sommes réellement au-delà des menaces et des risques de ce copain qui s'appelle le burn-out. Je vous disais donc, tout à l'heure que quand on me demande comment savoir si je m'approche du burn-out, je commence par la partie invisible, pernicieuse du stress et de la fatigue chronique. Celle-ci est un grignotage progressif de ce que l'on appelle votre capacité adaptative. Alors, de quoi parle-t-on réellement? La capacité adaptative est la capacité de votre organisme à encaisser et à s'adapter aux agressions, aux difficultés et aux défis de la vie. Bref, c'est cette agilité que notre organisme a pour absorber. Plus vous tirez sur la corde, stress et fatigue chronique aidant, vous allez grignoter cette capacité adaptative. C'est-à-dire que vous allez être de moins en moins capable d'encaisser et de vous adapter. La capacité adaptative va alors se réduire. Et plus elle va se réduire, plus vous allez sentir que jadis vous étiez capable de faire des choses dont aujourd'hui vous n'êtes plus capable. Vous voyez que vous avez de nouvelles limites, mais vous vivez dans le souvenir de la personne que jadis vous aviez été. Et vous vous dites des phrases du style « Non mais je peux tenir, je sais que je suis capable ». Et vous n'êtes pas capable de prendre conscience que vous étiez capable. Alors vous vivez dans le souvenir. Et donc, vous mettez de l'huile sur le feu parce que vous forcez encore plus la donne pour essayer d'arriver au niveau de rendement que vous aviez l'habitude d'avoir et que vous n'êtes plus capable d'atteindre. Et puis arrive un jour où, à force de tirer sur votre capacité adaptative qui n'est plus là, vous continuez vous-même à la brûler parce que, en fin de compte, vous brûlez avec le stress et la fatigue la chandelle par les deux bouts. Et en même temps, en essayant de revenir à celle ou celui que vous étiez jadis, vous continuez à cramer votre capacité adaptative parce que vous lui demandez trop par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et puis un jour, à force de se réduire, il n'y en a plus. Et ce jour-là, boum, vous explosez. C'est la déclaration du burn-out. Ça, c'est le premier phénomène invisible que vous n'êtes pas capable de voir ni de mesurer. Votre capacité adaptative. Même si il y a un petit indicateur qui la rend visible. Et c'est celui qui se présente quand vous êtes conscient ou consciente qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus capable de faire aussi bien que jadis. Et je parle là autant au niveau de la mémoire que des actions concrètes et de la résistance. Si cette petite voix est présente, il y a peut-être une question reliée à votre capacité adaptative et pas, comme beaucoup le disent, due à l'âge. Ok ? Deuxième partie invisible et pernicieuse du stress chronique. L'empoisonnement au cortisol. C'est quoi cette histoire ? Si je rembobine et je vous ramène à l'épisode antérieur, vous vous rappellerez que nous avions parlé de décalage horaire du stress. Je ne vais pas vous le refaire, je vais tout simplement vous rappeler le contexte. Chaque fois qu'il y a un influx de stress, c'est-à-dire une menace, le corps envoie une pointe d'adrénaline. L'adrénaline a 20 secondes de durée de vie dans le corps. Mais pour pouvoir tenir dans la durée, le corps, ce qu'il fait, il sécrète ensuite du cortisol. Le cortisol, c'est le bon vieux diesel, mais une fois qu'il est en marche, on ne peut plus l'arrêter. Donc, comme lui, il démarre au bout de 20 secondes, ils ont fait équipe avec l'adrénaline. Adrénaline, puis cortisol. Et là, vous êtes bon pour tenir tout ce qu'il faudra. Sauf que, quand vous vivez 75 attaques de mammouth ou équivalent attaques de mammouth par jour, vous avez l'équivalent de 75 influx d'adrénaline dans le corps. Et votre corps, à un moment donné, il vous dit « Tu sais quoi? Tu me fatigues avec tes injections d'adrénaline. Tu sais quoi? Comment, en fin de compte, l'adrénaline n'est là que pour ensuite pallier le temps nécessaire au cortisol de se mettre en route? Eh bien, tu sais quoi? Je vais te mettre du cortisol jusqu'aux oreilles et là, on n'en parle plus. » Et ceci a, entre autres effets collatéraux, entraîne à ce qu'on appelle le décalage horaire du stress. Si vous voulez le découvrir, je vous invite à écouter l'épisode antérieur, le numéro 60 de cette même chaîne. Jusque-là, tout va bien, ou presque. Mais nous avons un problème. Et c'est que le cortisol est censé redescendre après un influx de stress. Mais dans le cas actuel, pour pouvoir pallier aux 75 attaques de mammouth dont le corps n'était pas prêt à encaisser, parce que vous étiez censé encaisser au maximum 5 par jour, et déjà Dame Nature avait été vraiment prévoyante. Donc, on vous met du cortisol jusqu'à dégouliner par les oreilles, mais l'effet collatéral, c'est que le corps ne peut pas vivre à long terme dans un tel environnement. Le cortisol à long terme est un poison pour le corps. Et il s'avère que, en moyenne, une overdose de cortisol dans le système, on peut la supporter au maximum 3 ans. 3 ans mènent ensuite à l'empoisonnement au cortisol qui mène ensuite à un craquage global du système dit burn-out. Et ceci est complètement invisible. Petit indicateur difficile à voir, mais qui pourrait être un indicateur, c'est de reconnaître si par hasard vous ne subissez pas le décalage horaire du stress. Pour en savoir plus, référez-vous à l'épisode antérieur. Si la réponse est oui, la question suivante c'est: depuis quand subissez-vous ceci? Et si la parenthèse dépasse le 1 an, 1 an et demi, 2 ans, dites-vous que vous êtes dans une zone un peu dangereuse. Mais, comme c'est invisible, il y a peut-être d'autres facteurs. Et pourriez-vous encore douter? Troisième point, parce que ce n'est pas fini. Troisième point dans les espaces invisibles, c'est l'épuisement nutritionnel, dont nous avons parlé aussi dans l'épisode antérieur. Il y a tout un enchaînement de nutriments dans notre corps qui viennent s'épuiser les uns après les autres. Quand votre corps ne sait plus quoi faire pour continuer à puiser des ressources et trouver de l'énergie, quand il n'y a plus de nutriments dans votre stock corporel, eh bien le corps, il se met en berne et il fait crack. Et ça, c'est le troisième espace invisible. Et celui-ci, il est très difficile à voir, à moins que vous n'ayez faire des tests sanguins ou que vous visitiez un micronutritionniste qui fera une approche très fine de l'analyse de votre état nutritionnel. Outre cela, vous ne serez pas en mesure de voir si vous êtes en train de vous amener à un épuisement nutritionnel de votre corps. Nous sommes là donc face aux trois espaces invisibles et pernicieux qui accompagnent fatigue chronique, stress chronique et qui peuvent, in fine, vous amener au burn-out. Donc, si on s'arrête à ça, on peut se dire, mince, c'est très difficile de l'identifier, ferais-je un burn-out ou pas, quand même, c'est ballot. Eh bien, non. Car il y a une partie visible. Et celle-ci, c'est pas comme l'iceberg. L'iceberg, il a 20% de partie immergée, 80% sous la ligne de flottaison. Dans le cas du burn-out, c'est un iceberg inversé. 80% du problème est visible et s'impose à vous, comme on dit, dans ta face. Donc, n'ayez crainte, nous allons décrire tous ces événements, on va leur faire la peau, ça va vous permettre de faire un petit diagnostic de situation et à partir de là, prendre le taureau par les cornes, ce espagnol qui vous parle, vous aviez de Toledo et vraiment lui mettre une bonne mandale qui ne revienne plus jamais. La partie visible du stress chronique est une partie qui vous prévient. Et elle vous prévient très en amont. Il y a plusieurs chapitres là-dedans. Et on va les traiter. Le premier, ce sont les bobos, les douleurs, les alertes, etc. Il y a toute une ribambelle de choses que vous pouvez savoir pour pouvoir vous situer à peu près par rapport à où en êtes-vous de la fatigue et du stress chronique. Ensuite, vous avez votre entourage et les relations avec votre entourage. Vous avez aussi les émotions et ensuite les pensées. Ces quatre espaces-là vont vous donner énormément d'indicateurs que si vous les écoutez, vous éviterez le cas échéant de tirer trop fort et trop dur sur la corde et de faire crack. Alors commençons par les bobos, les douleurs et les alertes. Ceux-ci, comme tous les autres que nous allons décrire, ont une évolution progressive. On pourrait dire que par phase. Donc, il y a en tout et pour tout à peu près 3-4 phases suivant les cas. Ce sont des phases de dégradation progressive. Elles deviennent de plus en plus graves, si vous voulez. Et donc, le problème de la fatigue avancée, du risque de burn-out, s'approche plus on accumule les différentes phases. Quand nous parlons de bobos, de douleurs, etc., etc., tout commence par un environnement que j'appelle de petit bobo. Alors, c'est quoi un petit bobo? Un petit bobo, c'est ce qu'il dit, un petit bobo, c'est un petit truc, allez, anodin, voilà, gênant, mais pas plus que ça. C'est tellement un petit bobo que vous n'allez pas aller voir un médecin pour ça. C'est quand même c'est un petit truc quoi. Voilà, j'ai une pointe dans le dos. Voilà, j'ai un nœud à l'estomac. Voilà, j'ai un petit rhume. J'ai des maux de dents. J'ai voilà une petite migraine. Tout ça, ce sont des maux de tous les jours et MAUX bien évidemment les maux et des choses qui voilà font partie de la vie, quoi, la vie courante. Il y a des jours avec, il y a des jours sans et parfois on a des petits bobos qui nous enquiquinent. On sait vivre avec. Le petit bobo en tant que tel, il est anodin. Il n'a pas d'importance en soi. C'est juste voilà le corps, ben il se réajuste et voilà il y a des circonstances atténuantes qui font et qui expliquent éventuellement que vous sentiez ça. Dans le cas de la fatigue chronique et du stress chronique, le problème avec les petits bobos, c'est non pas le petit bobo en tant que tel, c'est l'estampide, l'armée de petits bobos qui viennent vous assaillir en même temps. Ça, ce n'est pas normal. C'est quand vous avez et des maux de tête, et des problèmes dentaires, et des pointes dans le dos, et des douleurs articulaires et des j'en sais rien, vous pouvez tous les pauvres du monde, le petit rhume, le ceci, j'en sais rien. Quand vous avez beaucoup de petits bobos en simultané, que vous avez l'impression d'être chafouin tout le temps à plein d'endroits différents, vous pourriez éventuellement vous dire que là vous êtes en train d'entamer le stade des petits bobos, c'est-à-dire que votre corps commence à tirer la langue. C'est le premier point de vigilance. Mais on va imaginer que vous dites, c'est rien, ça va passer, c'est circonstanciel. Vous continuez à tirer sur la corde. Et votre capacité d'adaptative continue à souffrir. Vous passez à une étape suivante, c'est celle des gros bobos. Voilà. Maintenant, le corps, comme il ne s'est pas fait écouter, il passe à un ton un peu plus élevé. Là, on parle de cette crève qui ne passe pas, de grosses migraines carabinées qui durent plusieurs jours, des problèmes gastriques à répétition, des diarrhées inexpliquées, des maux de dos, des torticolis, etc., etc. Là, on est monté de ton. Ce n'est plus le petit bobo, là, ça commence à faire un peu plus mal. Votre corps s'exprime. Avant, il vous chuchotait « j'ai mal » de plein d'endroits différents. Là, il commence à vous crier un petit peu. Et « oh, ça va pas ». Mais on va se dire que ce deuxième point de vigilance, vous ne l'écoutez toujours pas et que vous continuez à tirer sur la corde. Là, vous passez dans l'étape suivante, c'est celle des alertes. Là, le corps, ça commence à ne pas aller. Il a essayé de se faire entendre, là, il commence à craquer. C'est ici que vous avez la première grosse alerte et par exemple, en descendant un trottoir de façon complètement anodine, plac, sans comprendre comment, chac, le genou, il lâche et vous vous faites une rupture de ligament. Ou tout simplement, vous êtes assis au bureau, vous faites un geste pour aller chercher un crayon et jlang, énorme crise de lumbago, incapable de vous lever. Vous allez passer un mois entier alité. Ou, soudainement, vous qui êtes parfois susceptible d'avoir des migraines, va vous faites des migraines ophtalmiques à répétition. 2 à 3 par jour. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Alors que vous en faisiez peut-être 1 par année. Le point commun de toutes ces alertes, c'est qu'elles vous obligent à une chose, c'est de vous arrêter. Ce sont toujours des alertes qui exigent que vous vous allongiez, que vous ne fassiez rien. Quand vous avez une crise de lumbago, c'est impossible de bouger. Donc le corps, ce qu'il fait, vous envoie un message de douleur, une grosse alerte, pour vous forcer à le laisser le temps de récupérer par ailleurs. Là, nous sommes déjà particulièrement avancés dans le problème. Mais on peut se dire qu'on continue, voilà, un bon staccanoviste, on va se donner à fond. Et là, vous passez à l'étape suivante. C'est certes des grosses alertes. Là, vous commencez à vous faire peur. Le corps, maintenant, il a plus l'espace pour vous prévenir. Il vous dit que ça craint. Et là, c'est par exemple que vous découvrez une tumeur derrière l'oreille. Et là, vous vous faites une frayeur monumentale et vous dire, est-ce que c'est un cancer? Et vous faites tous les tests et finalement, c'est rien. C'était quelque chose de bénin, c'était pas un cancer. Mais pendant quelques jours, vous avez vraiment, vraiment, vraiment eu peur. Et vous vous êtes posé de vraies questions. Est-ce que ça en vaut réellement la peine? On peut imaginer aussi qu'il s'agit de la crise d'angoisse que vous prenez pour un infarctus. Voilà, et vous perdez, vous sentez tout exactement une crise d'angoisse, ça a les mêmes symptômes qu'un arrêt cardiaque. Et là, vous êtes allé faire une batterie test, vous croyez que vous allez faire un infarctus, que vous avez fait un infarctus, que vous risquez de faire un infarctus, et là finalement, non, c'était juste une crise d'angoisse. Ou ça peut être des pertes de mémoire subites. Vous êtes là et soudainement, gros blackout. Mais je parle pas, j'ai oublié les clés, je sais pas où je les ai posées. Non, non, non. Vous oubliez littéralement ce qui vient de se passer dans les 30 dernières minutes. Non seulement la conversation, mais je fous quoi là, ici? Ok? En ce qui me concerne, quand moi j'étais au niveau des grosses alertes, pour vous donner une illustration de ce que ça peut donner, j'ai oublié qui j'étais. Comme vous l'entendez, je me suis réveillé en pleine nuit et je ne savais plus qui j'étais. J'ai dû faire un effort surhumain pour me rappeler quel était mon nom et mon prénom. Mais me suis-je arrêté là? Pas du tout. Pas du tout. Du coup, qu'est-ce qui m'attendait derrière? Le 13 février 2009, l'explosion et le burn-out. Mais ça, c'est pour les petits bobos. Que pensez-vous si nous parlons en plus des émotions? Dans la phase 1, vous êtes à fond tout le temps. Ça fait longtemps que vous êtes à fond. Et maintenant, vous commencez à accuser le coup. Avec les petits bobos, il y a une phase de fatigue permanente. Vous êtes tout le temps en train de tirer sur la corde, vous le sentez, vous peinez à récupérer. Ce qui fait que vous avez l'impression de vous traîner le corps et les problèmes et les obligations. Et celles-ci sont accompagnées d'une certaine irritabilité. Il y a une aigreur. L'impression aussi que tout se tourne contre vous. Mais qu'est-ce qu'ils ont à m'enquiquiner tout le temps? Est-ce qu'on ne pouvait pas être tranquille un peu? Et là, vous allez commencer à vivre dans un agacement presque quotidien. Et petit indicateur de cette phase initiale, vous commencez à avoir un sillon qui se creuse entre les sourcils. Et le deuxième indicateur, vous commencez à souffler à longueur de journée. Et tout vous gonfle, et dès qu'il y a un truc, vous soufflez, il y en a marre. Ça, c'est la phase 2. Émotionnellement, c'est le rat, le bol, l'irritabilité, le début de la colère et de l'agacement. Vous continuez à tirer sur la corde, et là, vous êtes en phase 2. La sensation de poids se renforce. On peut dire que là, littéralement, vous en avez plein le dos. Votre entourage, soyons simples, vous gonfle. Vous en avez ras la casquette de tout le monde et de porter tous ces bras cassés à bras le corps à longueur de journée. Alors vous tendez à vous désocialiser. Vous devenez beaucoup plus casanier ou casanière. Vous n'avez plus envie de sortir ni de voir des gens. Peut-être que vous remarquez que ça fait longtemps que vous ne souriez plus franchement. Ça fait encore plus longtemps que vous n'avez pas ri de bon cœur. Même les bouquins, les livres ou les émissions qui vous faisaient rire, au mieux, ils ou elles vous arrachent un petit sourire en coin. Et c'est déjà énorme. Vous avez même souvent des envies subites de pleurer et difficiles à réprimer. Le moindre truc qui vous touche, vous avez envie d'éclater en sanglots. Parfois même, sans aucune raison, sans aucune stimulation, vous avez juste une tristesse permanente en vous qui demande à s'exprimer. Mais à côté d'elle, émotion de colère. Vous ne soufflez plus. Vous commencez à clairement exprimer votre contrariété. Vous devenez plus tranchant ou tranchante. Vous envoyez les gens bouler sans vous soucier une seconde des conséquences. Parce que vous en avez mis tellement ras-le-bol que c'est le cadet de vos soucis. Vous exprimez clairement que ça ne va pas, et s'il y a une envie qui domine tout, c'est celle de tout envoyer paître. Là, l'agacement est devenu colère. Mais la vie faisant, on continue à tirer sur la corde. Et là, vous commencez à basculer dans une troisième phase, c'est celle d'une sensation d'être pris dans un engrenage, de vivre par défaut, parce qu'il faut, parce que vous n'avez pas le choix. Et à force d'être là-dedans, ce qui n'est guère plaisant, vous commencez à perdre goût à tout. Une sorte d'aguesie, manque d'envie de tout, plus rien n'a de goût. Vous n'avez tellement envie de rien, que vous n'avez même plus envie de personne. La vie en tant que telle semble perdre tout son sens. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fous là? Et quand vous sombrez là-dedans, vous êtes pris par une apathie extrême. Vous n'avez plus envie de rien. Et si vous faites tout ce que vous faites, c'est parce que vous êtes devenu un automate. Vous vous levez le matin par défaut. Vous faites ce que vous êtes censé faire. Vous avez un sentiment profond d'abattement. Plus rien ne vous importe. Et pour certains, à ce stade-là, on commence à avoir des idées noires. Vous êtes à la limite de la phase 4, qui est, vous le savez, l'explosion en vol et le burn-out. Parlons maintenant de ce qui se passe dans notre petite tête. En phase 1, on est encore... Voilà, on est fatigué, on a tiré beaucoup sur la corde, mais encore ça va. Le cerveau, il tourne là à 1000 à l'heure. Vous avez une sensation de saturation de mental. Et vous avez déjà trop de dossiers à gérer, vous le savez. Vous avez le sentiment d'être une sorte d'équilibriste, d'être là en train de faire de la magie, à même vous demander comment fais-je pour faire autant de choses et tenir encore debout. Mais ça marche, donc vous continuez. Vous demandez comment vous allez gérer, mais voilà. La seule chose que vous faites, c'est angoisser, ruminer en permanence dans la crainte de ne plus y arriver. Car vous ne savez pas comment vous faites pour être encore là et à y arriver. Et quand vous n'avez pas le choix, vous tirez, vous continuez. C'est là que vient la phase 2. Et à force de faire de l'équilibrisme, il y a des choses qui commencent à manquer d'équilibre, justement, des petits trucs qui se cassent la gueule par-ci, par-là. Bref, vous ne devenez plus aussi bon qu'avant. Mais vous commencez à accepter votre médiocrité, car c'est le seul moyen d'embrasser autant de choses. Mais cette médiocrité s'est rendue approximative, vous pèse en excès. Vous n'aimez pas votre niveau de rendement et vous vous jugez très durement. Et pour compenser, vous faites quoi? Mais vous forcez encore plus, vous tirez encore plus sur la corde. Sauf que, à ce stade-là, le cerveau refuse d'enregistrer davantage. Vous avez un sentiment de saturation mentale. Il n'y en a plus de place pour rien. Il n'y a plus rien qui rentre. En plus de ça, vous avez des pertes de mémoire. Des mémoires légères. Vous oubliez beaucoup trop de choses. La plupart des choses sans importance, mais des choses que vous aviez l'habitude de vous rappeler. Par-ci un rendez-vous, par-là un coup de fil, une petite course que vous y aviez à faire, de petites choses, mais qui à la fin deviennent quand même très contrariantes parce qu'elles vous font perdre du temps, un temps que vous n'avez pas, et vous exigent encore des ressources pour résoudre des problèmes que vous créent ces petites pertes de mémoire. Mais à côté de ça, vous commencez à avoir du mal à vous endormir. Vous rêvez en boucle de problèmes au travail qui ne se résolvent jamais, une sorte de cauchemar sans fin. Sitôt vous vous réveillez, le mental à la seconde où vous vous réveillez, se remet en route à vitesse grand V, il est impossible de vous rendormir, alors là c'est utopique, et là c'est parti, la seule chose qui vous reste à faire c'est de vous mettre en mouvement pour essayer de ne pas entendre ce bordel, excusez-moi l'expression, qui vient de s'implanter dans votre tête, qui est exactement le même, qui s'était arrêté au moment où vous êtes endormi. C'est comme il s'était rien passé, clac, la prise s'est remise et vous, c'est reparti comme avant. Quel que soit le nombre d'heures de sommeil, vous vous réveillez épuisé. Mais vous continuez parce que vous êtes un stakhanoviste, une stakhanoviste, vous continuez, vous n'avez pas le choix, vous vous dites, et là vous rentrez en phase 3. Là, le cerveau ne s'arrête plus. Il tourne à 2000 à l'heure dans tous les sens. Avant, il tournait à 1000 à l'heure, mais il restait quand même un peu plus ou moins focus sur les problèmes. Il était comme une sorte d'aliénation par rapport à l'activité qui nous concerne. Ici, le cerveau, il ne s'arrête plus. Il est tout simplement dans tous les sens. Le moindre truc, ça part. Vous êtes agité et vous partez dans tous les sens. Vous êtes comme en apnée tout le temps. Vous avez beaucoup de mal à vous concentrer. Vous devez forcer. Les mots traversent votre tête. Vous entendez. Vous êtes incapable d'écouter. Vous ne retenez rien. Vous avez beaucoup de mal à vous concentrer. Et après tout ça, la réalité, c'est que vous commencez à littéralement vous en foutre de tout et de tous. Tout nouveau problème est une montagne infranchissable qui vous accable. Ce qui fait que vous vous en foutez pour pouvoir vous libérer de ce poids. Vous laissez tomber sans vous soucier des conséquences. Vous oubliez des gros dossiers, des choses que vous savez ont de l'importance là, maintenant, et c'est, allez, je m'en fous, allez, rien à cirer, allez, lâche-moi les baskets. Vous perdez facilement les moyens mentaux face à la moindre contrariété. Et tout ça fait que vous dormez très mal la nuit maintenant. Vous vous réveillez en pleine nuit, le mental tourne à 1000 à l'heure, les pensées n'ont plus aucun sens, c'est juste un mental qui voilà, sens dessus. Vous faites bien évidemment des insomnies, si seulement, vous dites-vous, si seulement on pouvait éteindre mon cerveau. Et le dernier point, votre entourage, eh oui! Les amis, la famille, les proches, les collègues de travail, en phase 1, vous regardent et vous disent « Eh, alors comment tu vas? Oh, dis donc, t'as l'air fatigué, hein? Tu tires un peu trop sur la corde en ce moment. Dis, tu te reposes assez? Oh, fais attention, hein, il faudrait pas que tu tombes malade. » Voilà le genre d'interaction que nous avons avec notre environnement. À ce moment-là, notre réaction immédiate, c'est le déni. « Non, mais ça va, t'inquiète, non, ouais, ça va, oui, je suis un peu fatigué, mais bon, ça va passer, c'est comme ça. » Et vous donnez plein d'explications. Il y a ci, il y a ça, là. Il y a plein d'explications à ce moment-là pour juste expliquer et justifier que non, t'inquiète pas, tout va bien. Et on continue à tirer sur la corde. Et là, on passe à la phase 2. Les mêmes proches, amis, copains, copines et compagnie viennent vous voir, collègues, et vous dire « Ouais, la phase 2, c'est... Ouais, dis donc, tu as quand même mauvaise mine, hein. Tu as l'air malade, t'es sûr que ça va bien parce que t'as une sale... couleur, une salmine, fais attention à toi quand même, hein. J'ai l'impression que ton corps te dit quelque chose. Tu n'en ferais pas trop? Fais attention, c'est dangereux, hein. Il faudrait pas que tu craques, tu devrais arrêter. » Là, on commence déjà à se soucier de vous et à vous donner des recommandations de « attention, là, ça commence à craindre, j'aime pas ce que je vois ». Là, vous ne donnez plus des explications, mais vous continuez dans le déni. « Non, non, t'inquiète. » Et maintenant, vous donnez des excuses. Avant, vous expliquiez. Là, c'est des excuses. « Oui, non, mais tu sais, il y a ci, il m'enquiquine, j'ai un gros dossier, il se passe ça, nananana. » Et vous décrivez l'ampleur des quantités de choses que vous devez gérer aujourd'hui, mais vous êtes toujours dans le déni. « Non, j'ai juste tous ces problèmes-là, c'est plein d'excuses qui justifient que je sois là, tu as raison, mais t'inquiète, ça va aller. » Et le déni est toujours présent. Et là, vous rentrez dans la phase 3, parce que forcément, à force de nier l'évidence, vous continuez. Et en phase 3, les gens commencent à vous dire, « Écoute, il faut que je te parle. Je me fais vraiment du souci pour toi. Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour t'aider? Je ne veux vraiment pas, je ne veux pas te voir sombrer. Là, je commence à me préoccuper. Je me réveille la nuit, je pense à toi, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a, s'il te plaît, prends soin de toi. » Là, la personne que vous avez en face, elle est en détresse quand elle pense à vous. Mais vous, à ce moment-là, toujours dans le déni. Sauf que, maintenant, plus d'explications, plus d'excuses. Elle vous casse les pompons, celle-là, ou celui-là. Agacement, colère. C'est bon, allez, lâche-moi les baskets. La personne qui essaye de vous sauver de votre descente aux enfers devient un problème pour vous, parce qu'elle est en train de vous mettre le problème devant les yeux. Vous n'avez plus de place pour plus de problèmes. Et donc, elle vous agace, elle vous met en colère. « Allez, lâche-moi les baskets. » Et votre réaction immédiate, c'est « casse-toi ». Vous lui dites parfois, parfois vous ne lui dites pas. Mais vos actions directes, c'est ce qu'elles font. Vous vous déconnectez, vous commencez à vous isoler. Vous passez de plus en plus de temps chez vous et de moins en moins de temps avec les gens qui vous entourent. Et ceci va par cercle concentrique. Au début, vous arrêtez de voir les connaissances, le réseau, les histoires du boulot, etc. En moins de happening et de choses comme ça. Ensuite, vous arrêtez de voir vos amis, voilà, vos copains, copines, etc., etc. Ensuite, ce sont vos amis proches que vous commencez à ne plus voir. Et à la fin, vous restez enfermé dans un noyau extrêmement réduit qui est probablement celui de votre femme, de votre mari, celui de vos enfants et peut-être quelques parents proches. Mais le restant des parents, non plus, vous ne pouvez plus les voir. Quand je parle parents, cousins, cousines, voilà, et parents plus ou moins proches ou éloignés, vous réduisez au noyau, le noyau le plus dur, le plus petit, le plus... Là, vous êtes vraiment très, très, très près d'exploser. Et dans cet espace relationnel, celui qui en prend mais plein la gueule, c'est votre conjoint. Il ou elle subit la situation, elle ne sait plus comment faire. Mais cette personne-là est votre dernier espace de paix, votre dernier espace de respiration. Alors quand cet espace-là commence à vous dire les mêmes choses que tous les autres, mais là, vous n'avez plus de place. Vous êtes déjà à la limite. Vous lui en mettez plein la gueule. Mais lâche-moi les baskets, tu me gonfles. Et là, vous commencez à la gueuler, à ceci et cela. Donc, cette personne-là subit à vos côtés vos descentes aux enfers alors qu'elle n'a rien demandé. Mais si jamais vous explosez, elle va subir à vos côtés la remontée. Et c'est une sacrée remontada, celle-là. Elle n'est pas facile. Alors, qui fait un burn-out quand vous faites un burn-out? Votre conjoint le vit et le subit avec vous. Vous êtes deux dans cette histoire. Alors, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour lui ou pour elle, faites-le pour vos enfants. Car vous êtes une équipe, vous êtes une unité et le burn-out vous entraîne tous là-dedans. Ça, c'est l'entourage. Et si vous n'écoutez toujours pas, devinez qui est le prochain qui va vous dire « Coco, ça ne va plus », ben c'est le burn-out lui-même. Maintenant, nous avons vu les oreilles du loup. On a passé un bon petit moment à décrire la quantité de symptômes que vous pouvez avoir pour vous pouvoir vous situer dans quelle phase vous pouvez éventuellement être plus ou moins avancé, pouvoir reconnaître si vous êtes ou pas face à un risque de burn-out. Mais peut-on éviter le burn-out? Et la réponse, c'est bien évidemment que oui. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on le prévient de plus en plus tôt. Il y a eu en 2014, je crois que c'était, de mémoire, 2014 c'était, ou 12, bon, dans ces eaux-là, il y a eu un projet de loi Hamon qui a voulu faire du burn-out une maladie professionnelle. Le gouvernement s'est intéressé à la question. Alors, je vous passe des détails, le projet de loi n'est pas passé, je vous passe les détails, mais ça a quand même mis un gros focus sur la problématique du burn-out. Et aujourd'hui, Dieu merci, force de beaucoup d'efforts, entre autres facilités par le projet de Doiement, mais aussi pour beaucoup de personnes comme moi-même qui avons beaucoup œuvré pour la prévention du burn-out, la prise de conscience de ce problème. Aujourd'hui, il est en bouche de tout le monde le connaît, et normalement, quand vous allez voir un médecin, il vous met en arrêt maladie avant même d'avoir atteint les phases ultimes de dégradation que je vous ai décrites ici. Alors que, à l'époque, vous les passiez toutes haut la main et vous vous preniez le mur. Aujourd'hui, Dieu merci, ça s'arrête beaucoup plus tôt. Donc, on a un peu brisé l'hypocrisie, et je parle d'hypocrisie parce que le burn-out est un problème dont on ne préfère pas parler, car en parler, c'est reconnaître qu'il existe. Reconnaître qu'il existe, c'est reconnaître une certaine part de responsabilité. Et il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent faire l'autruche et ne pas regarder le problème en face. Dieu merci, les médecins sont pas comme ça. Et ouf, on commence aujourd'hui à pouvoir éviter beaucoup de burn-out graves grâce à ce diagnostic suffisamment à temps. Mais dans tout ça, si vous voulez éviter le burn-out, sachez que le seul et principal ennemi, c'est vous-même. Et le déni. Vous pensez que ceci ne pourra jamais vous arriver, que ça n'arrive qu'aux autres, que ce que vous vivez est circonstanciel, que c'est un problème. Écoute, quand vous avez écouté tout ce que je vous ai raconté, vous prenez un peu de recul, vous vous regardez en posture méta et s'il vous plaît, acceptez que la quantité de choses que je vous ai décrites, vous les vivez depuis un bon moment. Pas depuis un mois, deux mois, trois mois, ce qui ferait de votre problème un problème circonstanciel. Vous subissez ça depuis fort longtemps, fort trop longtemps. Quand vous êtes capable de vous dire ça, dites-vous, ok, si vous reconnaissez ça, vous êtes en train de jouer à la roulette russe. Il y a une balle dans le barillet. Où est-elle? J'en sais rien, mais tous les matins, vous la faites tourner et vous appuyez sur la détente. Clic, il s'est rien passé. Vous repartez, vous recommencez à mettre de l'huile dans le feu. Le lendemain, vous tournez, clic. Sauf que, chemin faisant, il n'y a pas une balle dans le barillet. Il y en a deux, plus trois, plus quatre. Et les chances qu'il y en ait une qui parte deviennent de plus en plus petites. Si vous voyez que vous avez beaucoup de cases cochées dans tout ce que je vous ai décrit, la première chose que vous devez faire, c'est faire la peau à qui? À votre déni. Peut-être que vous êtes dans une phase avancée de stress chronique et de fatigue avancée. Mais certaines personnes devront aller jusqu'au bout et se prendre le mur. Heureusement, elles sont de moins en moins nombreuses. Mais est-ce que ça vaut réellement la peine de s'amener à cet extrême-là? Le burn-out est un suicide affolant. En ce qui me concerne, je suis passé à deux doigts de l'anévrisme et j'avais 5% de chance de m'en sortir indemne. 5% de chance. J'aurais dû normalement perdre des capacités de diction, des capacités cognitives, etc., etc. Heureusement, je m'en suis sorti. En même temps que moi, un autre dirigeant d'entreprise qui vivait à quelques kilomètres de chez moi, en même temps que moi, lui avait un parcours extraordinaire. En termes de succès, c'était quelqu'un qui avait fait des choses magnifiques, des boîtes partout dans le monde, des centaines de collaborateurs, un succès international. Il fait un burn-out exactement en même temps que moi, à quelques jours près. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. À ce jour, je vous parle, je suis à Hendaye sur la côte basque. Et sur la côte basque à Hendaye, il y a un hôpital. Un hôpital destiné aux personnes qui ont des problématiques mentales. À l'instant où je vous parle, cette personne est sous une sèche roulante. Elle bave. Elle habite à 2 kilomètres de chez moi. Elle ne s'est jamais relevée de ce burn-out au même moment subi que moi. On ne sait jamais avec quelle violence il va pouvoir frapper. D'autres personnes, tout simplement, y restent. Si vous voulez en sortir indemne, remonter la pente est difficile. Mais il y a une énorme et magnifique promesse qui vous attend. Et je peux vous garantir qu'il vaut mieux remonter la pente et éviter le problème, car rien de tous ces efforts-là qui vous mènent à la déchéance du burn-out ne vaut la peine. Si ce n'est celle de prendre conscience que vous devez réagir pour pouvoir répondre à temps et découvrir l'immense cadeau que ceci est pour vous. Et c'est à ce moment-là que moi je vous dis que la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie est ce burn-out. Pourtant, je vous dis, ma carrière, c'est une carte postale. J'ai surfé les plus belles vagues au monde, j'ai dévalé les plus belles montagnes au monde avec mon snowboard, j'ai eu une vie de rêve et de magazine. Mais la plus belle chose qui me soit jamais arrivée est ce damné burn-out. Non pas parce qu'il est lui, mais par tout ce qu'il a amené de beau et de bon une fois que j'ai décidé de me reconstruire. Alors dites-vous une chose, votre corps vous prévient toujours et vous êtes toujours à temps. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de croyances limitantes, des blocages qui vous disent « je n'ai pas le choix ». Vous avez toujours le choix. Et plus vous allez descendre vers la descente aux enfers, plus vous allez croire que vous n'avez pas le choix. Et le jour où réellement vous n'avez pas le choix, vous allez vous rendre compte que le seul choix que vous n'avez pas, c'est celui de ne pas vous en sortir. Et vous allez tout donner avec le minimum de ressources pour vous en sortir. Et vous vous en sortirez. Donc, il y a toujours le choix. Aussi impossible et gordien que ce ne paraisse, vous avez toujours le choix. Votre corps vous prévient. Si vous avez le doute, commencez par faire ce qu'on appelle le test MASLACH, M-A-S-L-A-C-H, de prévention du burn-out. Ça vous permettra de pousser un peu plus loin la réflexion que cet épisode a créé chez vous. Vous répondez aux questions, vous voyez que ce que vous dit le diagnostic. Si jamais vous êtes dans le rouge vermillon, allez voir quelqu'un pour vous aider. Je vous garantis qu'il y aura un avant et un après cette prise de conscience. Beaucoup de choses devront changer. Vous êtes en train vous avez entamé depuis trop longtemps une descente aux enfers. Beaucoup de choses vont devoir changer pour que ceci ne se reproduise plus et ne continue plus. Et ces changements-là seront pour le meilleur. Car aujourd'hui, ce que vous avez, vous savez, vous mène au mur. Alors vous allez vous atteler à éclaircir vos zones d'ombre. Ces choses que vous avez préféré ne pas regarder, ces chapes de béton que vous avez laissées de côté, ces croyances qui vous ankylosent, ces relations polluantes, toutes ces choses-là, vous allez les regarder en face, car vous ne méritez pas tout ça. Vous allez donc décider de virer tous les démons de votre vie, les démons intérieurs et les démons extérieurs. Car la seule chose qui frappe à la porte, c'est l'incessante nécessité impérieuse de faire jaillir votre lumière. Vous allez alors donner du sens à vos choix et à vos relations. C'est fini de subir. Vous redevenez le maître de votre vie. Et alors une nouvelle vie va commencer pour vous. Loin de vos problèmes actuels et beaucoup plus proche de vos rêves et de qui vous êtes réellement. Fini le déguisement, fini les faire semblant, fini d'être une photocopie sans teneur de qui vous êtes. Le moment est venu de vous habiter à nouveau pleinement dans ce que vous êtes pour enfin remplir dans ce monde la place qui a toujours été la vôtre. Quelle que soit l'ampleur de vos problèmes aujourd'hui, ils sont sans commune mesure avec l'ampleur de toutes les choses merveilleuses qui vous attendent de l'autre côté. Je répète, quelle que soit l'ampleur de vos problèmes aujourd'hui, ils sont sans commune mesure avec l'ampleur de toutes les choses merveilleuses qui vous attendent de l'autre côté. Alors maintenant, de façon très concrète, comment se passe un retour à la normale quand vous êtes dans une zone de fatigue chronique et de stress chronique, sans forcément aller jusqu'au burn-out? Alors dites-vous que si vous êtes dans une zone de burn-out déclarée, ou à la limite de burn-out, pas loin du burn-out, ces phases-là sont exactement les mêmes dans la récupération. Sauf que si vous avez fait crack, si vous avez abattu toutes vos cartes et vous n'avez rien fait et vous vous êtes pris le mur à 200 km/h, tout ce que je vous décris maintenant sera beaucoup plus exacerbé. Si vous réagissez à temps, vous vivrez exactement le même processus de rémission, il sera plus court et moins exagéré. Mais ce sera exactement la même chose. Alors, pour un retour à la normale, la première chose, 1, sortir de la zone de risque. Ça, vous êtes dans le rouge vermillon, c'est là que les alertes sonnent, c'est là que vous avez les gros bobos, les gros problèmes. Normalement, dans cette zone-là, vous avez un accompagnement médical. Vous êtes en arrêt maladie, vous êtes suivi, et cette phase dure environ 1 à 6 mois. La plupart des gens pensent que cette phase-là, c'est la seule phase qu'il faut traverser. Comme quand, par exemple, je suis malade, une fois que je guéris, deux, trois jours après, tout va bien. Erreur. Grâce, erreur. Il y a une très longue phase qui suit celle-ci. La seule chose qui se passe ici, c'est qu'on vous fait sortir de la zone de risque, la zone de danger. Ça ne veut pas dire que vous êtes sorti d'affaire. Il y a une longue zone de récupération et de convalescence qui est la phase 2. Donc, une fois que le médecin finit l'arrêt maladie, qui vous dit vous pouvez reprendre une vie normale, dites-vous que votre vie sera tout sauf normale et que dans la phase de récupération, c'est la deuxième phase, vous êtes laissé, parfois délaissé à vous-même et à votre responsabilité. C'est là le moment d'être très bien accompagné. Ok ? Le médecin prend de la distance, c'est maintenant que vous devez vous entourer. Dans le meilleur cas possible, par toutes les professions que je vais citer maintenant. Ça peut coûter cher, donc peut-être que vous devrez faire des choix de bon sens parce que vous ne pouvez pas vous payer toutes ces personnes-là. Mais si vous le pouvez, c'est massage, une fois par semaine. Ostéo, la cadence que l'ostéo vous dira. Il vous remettra le corps en place et permettra au corps de récupérer, de mieux encaisser le passage difficile. Thérapeute, extrêmement important. Surtout, un ou une thérapeute spécialiste en thérapie brève. Retenez bien ce terme, thérapie brève, pas les thérapies longues. Elles ont leur intérêt, leurs bénéfices et tout ça. Mais quand vous êtes dans le rouge vermillon et que vous avez la tête sous l'eau, la thérapie brève est celle qui va vous prendre la main et va vous sortir la tête de l'eau. En très peu de temps, elle va vous permettre de vous libérer de la quantité de sacs à dos et de problèmes, de croyances limitantes, d'histoires de vie, de traumas et de quoi que ce soit qui sont en train de vous détruire. En quelques séances, vous êtes libéré de tout ça. Écoutez-moi bien, en quelques séances, à raison de 50 ou 75 euros par séance, en 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est fini. Vous êtes un homme, une femme nouveau. Ça, ce sont les thérapies brèves. Les thérapies longues, c'est l'équivalent de voir que vous avez la tête sous l'eau. Votre thérapeute en thérapie longue vient avec une petite barque, vous regarde et vous dit, vous allez vous en sortir. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne savez pas nager? Eh bien, ça peut être efficace, mais dans un cas comme celui-là, la seule chose dont vous avez besoin, c'est qu'on vous sorte d'une fois pour toutes la tête de l'eau. Donc, thérapie brève. Si après ce cap-là, vous voulez enchaîner avec des thérapies longues qui vous permettent d'aller un peu plus loin encore dans votre psychologie, vous êtes le ou la bienvenue. Mais à ce stade-là, dans la zone de récupération, thérapeute, en thérapie brève. Ensuite, un nutritionniste ou, dans le meilleur des cas, ça coûte un peu plus cher, un micronutritionniste qui va vous faire un suivi précis de ce que vous devez manger, comment vous mangez, une analyse de vos habitudes alimentaires. Si c'est un micro nutritionniste, il fera des analyses sanguines et verra exactement où vous en êtes de chacun des éléments de importants pour un corps en pleine santé et vous fera une diète adaptée pour pouvoir remettre les pendules à l'heure à ce niveau-là. Ensuite, le domaine énergétique est extrêmement important. Quand vous êtes en fatigue chronique, vous avez d'importants déséquilibres de vie, déséquilibres énergétiques, et ces déséquilibres, il sera important de les corriger. Donc, énergétiquement, vous pouvez travailler avec un acupuncteur ou un médecin chinois. Celui-ci vous aidera à remettre un bon équilibre dans le corps. Si vous voulez aller plus loin, allez voir aussi un bioénergéticien ou bioénergéticienne qui va travailler l'environnement de l'énergie au-delà de ses manifestations physiologiques. Et pour finir, toujours le bon vieux médecin qui saura vous accompagner dans la vision de votre santé spécifique liée à votre corps et aux zones de vulnérabilité qui se manifeste. Toutes les autres professions vont travailler, non pas une santé linéaire, allopathique comme le médecin, mais une santé globale, holistique. Tous ensemble, c'est l'équipe qu'il vous faut. Maintenant, une fois que vous vous êtes engagé là-dedans, vous devez retenir cela. Le parcours que vous allez faire est un parcours en dents de scie. Vous vous êtes arrêté net dans la descente aux enfers. Déjà, ça va vous soulager. Ça va vous donner de l'espoir. Et parfois, vous allez vivre de très beaux moments de récupération qui vont entraîner à des moments de jubilation, de lumière, des effets waouh, et vous dites « Ouais, je suis enfin libéré !» Eh bien, c'est un parcours en dents de scie. Ça, c'est un pic. Derrière, vous allez aussi avoir un moment de descente. Et après un moment de descente, un moment de remontée. Au début, les amplitudes du dents de scie sont très grandes. Et quand l'un arrive, dites-vous que l'autre vous attend, et vice-versa. Alors tenez bon, quand ça va, dites-vous que c'est un parcours en dents de scie, que probablement dans quelques jours, ça ira moins. Donc bon, vivez le moment, mais soyez pragmatique, il y aura un moment un peu plus mou derrière. Quand vous êtes au fond du trou à nouveau, dites-vous que ce n'est pas la fin du monde, et que dans quelques jours, ça ira mieux à nouveau. La bonne nouvelle, c'est que dans la moyenne, vous êtes dans une pente ascendante. Et avec le temps, les dents deviennent de moins en moins marquées qu'au début. Elles s'amenuisent jusqu'à atteindre un espace d'équilibre. Maintenant que je vous ai dit tout ça, il y a un gros risque dans cette deuxième phase. Et c'est de croire que vous êtes guéri alors que vous êtes encore convalescent. Et dites-vous que la phase de convalescence dure des mois, voire jusqu'à 2 ans. Mais la première fois que vous vous sentez pleinement accompli, vous commencez à faire comme avant, je mets des guillemets, c'est bon, je suis guéri, mais votre corps n'est pas guéri, il est convalescent. Du coup, vous lui mettez un gros coup de fatigue et là, rapidement, il sombre à nouveau. Et là, vous retouchez le fond et vous vous dites, eh mince, et vous pouvez avoir tendance à déprimer parce que votre corps ne vous a pas donné ce que vous escomptiez, ce que vous attendiez, ce que vous croyez. C'est normal, vous êtes tombé dans le gros piège dans cette phase 2 de récupération, c'est de croire que vous n'êtes plus convalescent alors que vous l'êtes encore pendant un bon et long moment. Maintenant, avant de clôturer, parlons des activités et comment celles-ci vont s'intégrer dans votre vie. Pour commencer, je ne passerai pas beaucoup de temps, même si c'est extrêmement important. Vous allez manger sainement, mais votre nutritionniste ou micronutritionniste vous donnera tout ce qu'il faut savoir pour cela. Ensuite, si vous aimez le sport, dites-vous que le sport doit se réduire à de l'activité physique stimulante. Pas de compétition, ni avec les autres, ni avec vous-même. Pas d'aller chercher à battre vos records. Vous êtes juste dans l'activité physique stimulante. Privilégiez les activités en pleine nature, si possible les pieds nus dans l'herbe, et si possible, dans la forêt naturelle. L'autre activité, les sports d'alcôve. Laissez la libido revenir en douceur. Vous n'avez pas de problème sexuel. vous avez juste une extrême fatigue qui ne vous donne plus envie de rien. Ça va revenir comme avant à 100%. Ne vous prenez pas la tête. Dans le cas des hommes, sachez que vous pouvez découvrir des techniques de rétention de l'éjaculation qui sont des techniques dites sexualité taoïste qui vont énormément économiser votre énergie, qui vont en plus vous faire découvrir des environnements extrêmement et magnifiques et plaisants et qui en plus vous seront d'une très grande aide parce que dans la médecine chinoise, l'une des plus grandes déperditions d'énergie d'un corps humain masculin se passe pendant l'éjaculation. Si vous êtes extrêmement épuisé, le simple fait d'éjaculer pendant un acte sexuel vous passera une énorme fatigue et facture. Donc, éventuellement, intéressez-vous aux techniques de sexualité taoïste qui prônent la rétention séminale et vous verrez que vos pratiques sexuelles seront non seulement très plaisante, mais en plus beaucoup moins fatigante et vous récupérerez beaucoup plus vite. Ça pour les sports d'alcool. Ensuite, dans l'activité, vous arrêtez littéralement tous les écrans la nuit avant de vous endormir. Et le matin, vous allez créer des routines matinales, des nouvelles habitudes pour avoir une nouvelle hygiène de vie. Ce que vous allez mettre à l'intérieur de ces nouvelles habitudes, c'est très ample. Je vous conseillerais éventuellement de découvrir le livre Miracle Morning. Mais tout simplement, pour commencer, écoutez les deux épisodes, la mini-série sur créer de nouvelles habitudes de cette même chaîne de podcast qui vous explique comment faire pour intégrer des habitudes qui changent radicalement votre vie, simplement mais efficacement. Deux épisodes qui bien pourraient changer complètement vos rapports à vos ressources, à vos capacités et surtout dans une phase comme celle-ci de récupération, les résultats que vous pourrez obtenir. Mais face aux activités et le mouvement, il y a le repos. Parlons-en aussi. Le repos, dormez tout votre sou. Arrivé à un certain degré de fatigue, les nuits ne suffisent plus. Alors faites des siestes. Ce seront au début de très grosses siestes, parfois de 1 à 3 heures, et vous serez claqué, vous serez explosé. Ça ne vous plaira pas ce sentiment-là, mais le corps a besoin de ça pour récupérer. Vous en ferez parfois plusieurs fois par jour. Vous ferez des siestes de 2-3 heures, parfois 2 fois par jour, ce qui fait que vous passez entre la nuit et vos siestes, les 3/4 de votre journée à dormir. C'est ce dont votre corps a besoin. Laissez-lui prendre cette place. Avec le temps, ça va se réduire. Au lieu de 2 siestes par jour, vous en ferez peut-être 1. Elles seront de plus en plus petites. Mais gardez toujours le rituel de la sieste. Et quand elle se réduira de 5 à 15 minutes, naturellement, vous saurez que vous êtes arrivé à un bon espace de récupération. Mais cette phase de récupération du sommeil peut durer, écoutez bien, entre 6 mois et 1 an et demi, suivant l'intensité de la fatigue que vous avez accumulée. Donc, ce n'est pas en 10 jours de vacances que vous allez récupérer. Et là, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Maintenant, pour aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne. Car ce qui vous attend dans cette masterclass podcast series, ça va être de parler de pleine conscience, de rapport à soi et de philosophie de vie. Ce sera pour le prochain épisode. Nous aurons ensuite un épisode sur le stress et les programmes de survie qui en découlent et leurs effets sur notre vie. Un épisode extrêmement intéressant. Vous découvrirez des choses dont vous n'avez peut-être jamais parlé dans cet angle-là et qui seront extrêmement éclairantes sur celui et celle que vous êtes dans la vie de tous les jours. Pas besoin de parler de burn-out, mais parlons de stress. Un troisième épisode, il sera question des relations. Et comment vivre des relations épanouissantes plutôt qu'épuisantes. Si vous ne voulez rien manquer de tout ça, abonnez-vous à cette chaîne. Toutes les semaines, vous aurez un épisode chaque dimanche. Envoyez-nous des messages si vous avez des questions. On pourra les répondre pendant la série, les épisodes suivants. Et si vous aimez ce que nous racontons, mettez-nous une note sur Apple Podcasts ou sur Spotify, plus nous aurons d'étoiles et de commentaires positifs, plus ces plateformes promouvront notre chaîne auprès d'une large audience. Mais à la fin, je le dis à chaque fois, les meilleures fêtes sont entre amis, alors recommandez-nous autour de vous. Et si je dois conclure, je dois vous dire qu'il y aura un avant et un après votre épuisement. J'aimerais conclure en vous disant que je l'espérerai du plus profond de mon cœur qu'il y ait un avant et un après l'écoute de cet épisode et de cette série. C'est ce qui m'a toujours animé, ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, c'était cette thématique-là, la lutte et la prévention de burn-out. Je me suis toujours dit, si au moins je pouvais être le dernier à vivre ce genre de situation, contribuer à ce que les autres n'aient plus à traverser ce que j'ai eu à traverser. Écoutez bien ceci, je vous l'ai déjà dit, mais votre vie ne sera plus jamais la même, et ceci pour le meilleur. Pendant longtemps, votre vie ne tenait que sur un fil, et vous avez probablement été à un doigt de la perdre à cause de ce dernier burn-out. Mais vous avez réagi au bon moment. Et ce que vous aurez gagné grâce à cette réaction, vous ne le regretterez jamais. Car vous allez goûter à quel point la vie est belle. Oui, nous vivons dans un environnement extrêmement exigeant. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, beaucoup de stress, beaucoup d'exigences. Et l'on se dit que l'on n'a pas le choix, qu'il faut passer. Oui, nous vivons dans un monde qui ne tient ni plus d'un côté ni de l'autre. Il est sens dessus, dessous. Mais pourtant, nous avons toujours et à chaque moment la possibilité de prendre les rênes de notre vie et de la responsabilité que nous avons sur celle-ci. Le burn-out est peut-être une menace, mais c'est une menace qui nous montre qu'il existe un chemin, il existe une passe, il existe un moyen de s'en sortir. Vous avez beaucoup plus de lumière qui vous attend que la noirceur qui aujourd'hui pèse sur vos épaules. C'est pas facile à vivre le stress, c'est pas facile à subir la fatigue, c'est pas facile de s'approcher du burn-out et de ne pas savoir quoi faire. Mais sachez qu'il est toujours possible de réagir. Vous pouvez vous faire accompagner de plein de personnes. Nous avons cité, nous avons donné des solutions, des étapes, des processus, des indicateurs. Aujourd'hui, à la fin de cet épisode, vous êtes en mesure de comprendre où vous en êtes par rapport à ce damné stress chronique et risque de burn-out. Il ne reste qu'une chose, agir. Il ne reste qu'une chose, réagir. Et je vous garantis, votre vie ne sera plus jamais la même et toujours pour le meilleur. Vous êtes en phase éventuelle de découvrir l'incroyable magie de la vie qui est en vous. Je suis Keragir et ceci est votre chaîne de podcast, Une alchimie de l'éveil. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires sur Apple Podcasts, Spotify et à nous recommander autour de vous. Cette chaîne est avant vous la vôtre. On se retrouve la semaine prochaine.